Joyeux Noël. Novembre l'an dernier, des sauterelles migratrices dévastèrent des champs de riz du Haut-Ouélé. La FAO distribua des semences améliorées de paddy aux agriculteurs touchés par la catastrophe. La première récolte, c'est pour bientôt. Quels sont les résultats attendus? C'est à suivre dans ce magazine. Le gouverneur du Kassai Occidental a ordonné la fermeture de l'université de Kananga. Motif: l'institution n'est pas viable. Cette décision oppose les étudiants au gouverneur des provinces. Après 10 mois de cours, les étudiants étaient sur le point d'achever l'année académique. Réponse du gouverneur: inscrivez-vous dans des universités viables. Comment savoir? On le saura. Noël arrive, vive les décorations, non seulement dans les maisons, mais aussi dans les rues. Sur l'avenue Maringa, dans la commune de Kasavubu, des magnifiques ballons d'air multicolores auréolent déjà une partie de l'avenue. Des éléments de la police sont venus gâcher la poursuite de la déco. Que s'est-il passé? Où est le problème? Ça va se savoir. À 48 heures de Noël, on observe déjà une forte effervescence dans les familles. On veut à tout prix faire la fête. Seule la volonté ne suffit pas. Il faut avoir les moyens de ses voeux. Comment bien manger à moindre frais? Comment faire une belle fête sans trop dépenser? Tentative de réponse dans Okapi Action aujourd'hui.
Okapi. Okapi à Kisangani sur 94.8 FM.
Nous vous le disions tout à l'heure, en novembre de l'an dernier, des sauterelles migratrices prirent d'assaut des champs de riz dans le Haut-Ouélé. Nous sommes dans la province orientale. La FAO distribua des semences améliorées de paddy aux agriculteurs touchés par la catastrophe. La première récolte arrive. Quels sont les résultats attendus d'ici quelques semaines? On en parle avec Aliana Alipanagama, en direct depuis Kisangani. Aliana, bonjour.
Bonjour Walter et bonjour aux auditeurs.
Joyeux Noël. Aliana, vous venez de rentrer de Isiro et vous y avez rencontré certains des agriculteurs riziculteurs. Commençons par les commencements. Dans quelles circonstances ces agriculteurs avaient-ils reçu ces semences et quelle avait été l'ampleur de l'attaque des sauterelles migratrices?
Oui Walter, c'est justement ce qu'il convient d'abord de rappeler. Vous savez, au mois de novembre de l'année dernière, des sauterelles migratrices, tout un instant des sauterelles, s'il faut ainsi dire, ont ravagé des hectares en hectares des champs de riz des paysans dans plusieurs collectivités et dans les différents axes dans les districts du Haut-Ouélé. Et cette situation avait comme conséquence la pénurie des riz blancs dans la région, vous savez, à Isiro. Le riz, c'est vraiment la principale culture de paysans et c'est vraiment l'aliment le plus consommé aussi dans cette région. Et face à cette situation, parce que les paysans étaient un peu désarmés, ils savaient à quel sens se vouer, mais Dieu merci, la FAO est intervenue pour secourir ces agriculteurs en distribuant des semences améliorées. Vous savez, ça fait depuis longtemps que FAO n'avait plus sa représentation dans la région et c'est à partir de cette situation que la FAO a dû secourir ces paysans. Et c'était une première dans la région parce que jamais la FAO n'a mené une telle action pour distribuer des semences aux agriculteurs. Et maintenant, nous sommes au mois de décembre, et le résultat commence à se faire voir et c'est la première période de la récolte de paddy, de ces semences améliorées qui est vraiment en expérimentation, Walter.
Aliana, comment les paysans ont-ils apprécié ce premier résultat des semences en cours d'expérimentation, comme vous venez de le dire?
Dis-moi, pour bon nombre d'agriculteurs que j'ai pu rencontrer moi-même dans certaines localités, dans certains champs où j'ai eu à visiter, ces semences vraiment ont donné un très bon rendement. Et dans la concession des Gossamou, par exemple, Gossamou se trouve à au moins à 6 km du centre-ville, du Siro, où moi-même j'ai été là, voir de mes propres yeux, Walter, un paysan avec ses 4 hectares cultivés m'a rassuré qu'il aura un rendement fructueux, puisqu'il a vu déjà comment ça poussait ses riz. En tout cas, il était vraiment, il avait un visage radieux, plein d'espoir. On l'écoutait, Walter.
Bon, comme disait le FAO, par un hectare, ça peut nous donner une tonne. Comme nous avons 4 hectares, peut-être ça va me produire 4 tonnes aussi, si nous avions respecté des ormes, comme il avait dit. Mais sinon, nous aurons à peu près 3 tonnes de paddy. Bon, pour moi, nous allons faire ça au moins 3 fois par an. Maintenant, c'est la première récolte que nous venons à peine d'attraper. Mais je crois qu'au mois de mars, nous allons faire encore l'autre semence, mois de mars et puis mois de juillet encore.
Ils sont très enthousiastes, on peut l'entendre dans leur voix. Mais Aliana, vous avez rencontré juste en groupe sur une concession, la concession des Gossamou. Est-ce que vous avez réussi à joindre d'autres agriculteurs, riziculteurs? Partagent-ils le même avis d'optimisme par rapport à ces semences améliorées de paddy?
Oui, pas tellement, Walter, parce qu'il faut noter que il y a eu des sortes ou des variétés de semences que la FAO a distribuées aux agriculteurs. Il y a ce qu'on a appelé IRAT 112 et IRAT 13. La première variété de semences, IRAT 112, n'a pas donné des résultats attendus par rapport à l'autre IRAT 13. Et à cela, j'ai pu voir l'ingénieur Rémi Lokouma, que j'ai rencontré sur place et qui est superviseur assistant de la FAO. Il a donné quelques explications pour justifier pourquoi cette variété de IRAT 112 n'a pas donné vraiment le résultat attendu.
Bon, pour moi, j'ai côté évacué ça en dehors de Ziro, mais comme il n'y a pas de route et puis les avions coûtent aussi extrêmement cher, il n'y a pas de train. Et vous voyez aussi avec des vélos qu'on est en train d'utiliser aussi, il y a des tracasseries policières et militaires. Et autant de vendre ça sur place ici que d'aller avec ça ailleurs. Au moins que eux-mêmes, les dimanches de fer, ceux qui font de l'or, ainsi de ceux qui viennent chercher ici pour aller chercher, vendre ça ailleurs. Voilà, chez nous ici, il y a des cortiquaises que nous allons utiliser. Et puis ici, soit à Mendambo, soit à Kikole, soit même ici en ville, nous avons presque partout des cortiqueuses qui nous aident aussi. Même des moulins qui pourront nous aider à faire des farines aussi de riz.
Et voilà, déjà des très bons projets qui sont nourris à partir de cette récolte. Mais dites-nous, Aliana, que vont faire les paysans avec le paddy récolté? Est-ce qu'ils vont le destiner à la consommation locale, c'est-à-dire à Isiro, ou alors peut-être le vendre un peu plus loin de Isiro?
Oui, Walter, écoute, on en peut anticiper les choses. C'est justement les réactions que nous venons de suivre là. Et c'était la réaction de ce paysan qui a justifié les difficultés qu'ils ont pour évacuer, parce qu'ils vont récolter vraiment une bonne quantité. Et leur vœu, c'était d'aller le vendre ailleurs, mais il n'a pas de moyens, il n'a pas de voie d'évacuation. Les riz seraient condamnés d'être consommés sur place. C'est ce qu'il a affirmé ce cultivateur que nous venons d'entendre tout à l'heure. Peut-être ce qu'on pourra peut-être savoir de plus, Walter, c'est pourquoi la variété IRAT 112 n'a pas pu donner des résultats escomptés. C'est ce que l'ingénieur Rémi Lokouma peut nous expliquer tout à l'heure.
Je pense, Aliana, que nous aurons peut-être plus tard l'ingénieur dont on ne retrouve pas l'élément sonore dans les machines. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est avec probablement un de nos invités qu'on aura dans quelques instants, étant que notre consoeur Nathalie Mouteba puisse essayer de nous trouver les explications sur le non-rendement d'une des espèces de paddy. Vous nous avez dit qu'il y a une espèce qui n'a pas très bien donné entre IRAT 112 et IRAT 13. C'est les 112 qui n'auraient pas donné des bons résultats. On retrouvera ce son tout à l'heure dans une tranche avec l'ingénieur Jean Wanjo, qui est superviseur des activités de la FAO dans le district du Haut-Touélé, qui se trouve d'ailleurs sur place à Aïssiro. Alors avec lui, on va avoir des explications. Peut-être à ce moment-là, nous le mettrons, n'est-ce pas, à vis-à-vis les deux ingénieurs sur l'explication du non-rendement escompté de l'IRAT 112. Mais il faut qu'on avance. Aliena Alipanagama, au demeurant, on note un grand espoir pour la réalisation d'une très bonne récolte pour ce mois de décembre par rapport aux semences améliorées, Aliena.
Oui, effectivement, c'est ça. Bon, c'est vraiment une réussite. Hein. C'est une réussite qui porte à l'horizon. Je pense que la carence des riz ne se fera plus faire sentir dans les Hauts-Touélé. Bon, si on arrivait peut-être à avoir des voies d'accès, d'évacuation, vous savez, là, c'est l'unique voie, c'est l'avion qui coûte extrêmement cher. Je pense que avec la quantité des riz qui sera produite dans toutes les collectivités, on pourra peut-être ravitailler les régions environnantes, notamment ici on fait allusion à Wamba, et on peut parler même des Dungu, des Doruma, et pourquoi pas Kisangani et Kinshasa même.
Oui, évidemment, Aliana, parce qu'il va falloir penser à rouvrir cette route, les routes des dessertes agricoles dont on a toujours parlé. Aliana, laissez-moi vous dire que Nathalie Mouteba a couru dans tous les sens et elle nous apporte la solution pour proposer à nos auditeurs les explications techniques de l'ingénieur Rémi Lukuma sur le fait que la variété de Paddy IRAT 112 n'a pas donné de très bons résultats. On écoute l'ingénieur Rémi Lukuma.
Il y a quelques plaintes sur la variété IRAT 112 où les gens se lamentent sur la taille de cette variété. Donc la variété IRAT 112 a une petite taille. Normalement on l'a travaillé au laboratoire pour que cette variété n'atteigne pas des tailles exagérées afin d'éviter l'averse. Et ça tourne autour de 1 à 1,20 mètres. Malheureusement, au niveau du zéro, donc la taille ne tourne qu'autour de 60 cm. Mais nous attendons la récolte pour se fixer alors sur le rendement de cette variété.
Mais voilà, on vient d'avoir ces explications qu'on soumettra aussi, évidemment, tout à l'heure à l'ingénieur Jean Wanjo qui nous écoute à Aïssiro maintenant, parce que Aïssiro, il nous capte dans la bande FM sur 90.1. Aliana Alipanagama, merci beaucoup. On espère qu'il y aura suffisamment de riz dans les casseroles. Déjà, on est à 48 heures de la Noël. On sait très bien que ce jour-là, c'est le riz qui coule à flot. Mais une précision peut-être, Aliana, c'est un riz blanc ou un riz un peu gris que l'on fait à Isiro?
Bon, d'habitude, ce que les paysans cultivaient autrefois, c'était un riz blanc comme la neige. Bon, on ne sait pas avec cette variété en expérimentation si ça va donner un riz aussi blanc que la neige comme autrefois, ou peut-être ça aura une autre coloration. Et peut-être avec l'ingénieur Jean Wanjo qui pourra leur donner toutes les précisions, parce que moi je suis profane dans le domaine de l'agriculture, Walter.
Vous nous avez permis de communiquer sur le sujet, c'est votre domaine, c'est notre domaine, notre beau métier. Aliana Alipanagama, laissez-moi profiter de cette occasion pour vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de Noël, d'excellentes fêtes de bonne année, ainsi qu'à tout le monde qui nous suit maintenant, et surtout à tous les agriculteurs, riziculteurs du Haut-Touélé qui nous écoutent à ce moment.
Oui, je voulais réciproque ainsi qu'à tous nos auditeurs et à toute l'équipe des radios Okapi.
Que vos voeux se réalisent, que nos voeux se réalisent. On va revenir à la réalité des cultures de riz dans le Haut-Touélé avec l'ingénieur Jean Wanjo. Ingénieur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le superviseur des activités de la FAO dans le district du Haut-Touélé. Vous êtes sur place à Isiro actuellement. Pouvez-vous nous dire, d'abord nous préciser les localités ou les axes sur lesquels vous avez mené cette opération de distribution des semences améliorées de Paddy?
Je commence par vous remercier de m'avoir accordé la parole.
Merci.
Notre projet a un espace réparti dans 5 axes. Nous avons opéré sur l'axe Isiro-Poco. C'est Dans cet axe, nous sommes limités à 85 km à Nehu, dans la collectivité de Zoumé, qui est le chef d'Itima. Ensuite, nous opérons dans l'axe Isiro-Amba. Dans cet axe, nous sommes limités à 121 km, c'est-à-dire jusqu'à Isiro et jusqu'à Wamba territoire. Troisièmement, nous opérons dans l'axe Isiro-Nesu. Dans cet axe, nous sommes limités à 90 km à Ibunda. Quatrièmement, nous opérons dans l'axe Isiro-Rungu. Sur cet axe, nous sommes limités à 120 km dans le village de Mbelekeli. Et finalement, vient l'axe Isiro-Interland, c'est-à-dire 25 km aux alentours de la ville d'Isiro. Voilà les cinq axes sur lesquels nous avons été opérationnels pour la réalisation de notre projet.
Mais quelle a été la quantité de semences distribuées aux paysans? Est-ce que tous les paysans de ces axes ont reçu une quantité et chacun recevait combien au moins par regroupement ou par individualité?
La quantité de semences reçues dépendait de la superficie emblasée, c'est-à-dire pour un agrimultiplicateur ou bien un opérateur agricole qui devait emblaver un hectare, on lui donnait 50 kilos de semences. Donc, la répartition était tellement variée parce que ça dépendait de la superficie emblavée par l'opérateur agricole.
Alors, il y a eu, on a noté déjà des premiers bons résultats en ce qui concerne une des variétés données. On a appris que vous avez donné deux variétés, IRAT 112 et IRAT 13. Nous avons appris que IRAT 112, déjà certains agriculteurs se plaignaient et craignaient de ne pas avoir des bons résultats. Je vous laisse écouter les explications de l'ingénieur Rémi Lokouma et après je vous demanderai de réagir.
Il y a eu quelques plaintes sur la variété IRAT 112 où les gens se lamentent sur la taille de cette variété. Donc la variété IRAT 112 a une petite taille. Normalement on l'a travaillé au laboratoire pour que cette variété n'atteigne pas des tailles exagérées afin d'éviter l'averse. Et ça tourne autour de 1 à 1,20 m. Malheureusement, au niveau du zéro, donc la taille ne tourne qu'autour de 60 cm. Mais nous attendons la récolte pour se fixer alors sur le rendement de cette variété.
Ingénieur Jean Wanjo, il a fermé son téléphone, il faut qu'on le retrouve dans quelques instants parce qu'il était question qu'il réagisse à cette réponse de l'ingénieur Rémi Lokouma qu'on va avoir dans quelques instants. Ce qu'on peut noter, rappeler aux auditeurs qui viennent de se joindre à nous, c'est que cette opération de la FAO à partir de Isiro s'est étendue vers jusqu'à 80 km, vers 125 km, 90 km, 120 km et puis 25 km à la ronde autour des Isiro. On comprend donc qu'il y a eu vraiment un sacré déploiement en forme d'étoile par rapport à la ville de Isiro. Nous avons déjà des questions qui nous arrivent, notamment des Badolites, c'est M. Libois. Il est originaire de Bossobolo. Il voudrait savoir comment faire pour bénéficier des semences améliorées du riz à Bossobolo. On va poser la question tout à l'heure à l'ingénieur Jean Wanjou qui va y répondre et aux autres auditeurs qui sont à l'écoute. Ils peuvent poser des questions au 081 890 68 90 pour participer, surtout ceux qui sont très intéressés par la culture du riz. Rappelons en passant que l'année 2004 a été déclarée année internationale du riz pour essayer de promouvoir normalement la culture du riz en ce que le riz nourrit la grande partie de la planète. D'ici là qu'on retrouve l'ingénieur Wanjo. Ah oui, c'est possible. Ingénieur Wanjo.
Bonjour. Voilà. Oui, je suis à l'écoute.
Voilà, on a perdu la communication. Est-ce que vous avez entendu les explications de l'ingénieur Rémi Lokouma sur les plaintes au sujet de IRAT 112?
Tout à fait, je l'ai bien capté. L'IRAT 112, pour le moment, nous sommes d'abord dans la phase des récoltes. Les récoltes sont en cours. Mais est-il que les réalités qui pointent à l'horizon font état du fait que le rendement de l'IRAT 112 sera nécessairement inférieur à l'IRAT 13. Et nous pensons que
Cela serait dû au fait que l'IRAP 112 aurait été très sensible aux conditions défavorables ou bien difficiles à rencontrer sur le terrain. C'est-à-dire que chaque fois qu'un opérateur agricole n'intervenait pas à temps ou bien s'il n'appliquait pas correctement les différentes techniques qui sont requises au développement de cette variété, cela engendrait une répercussion négative sur son développement. Aussi, je voulais dire que cette variété à cycle végétatif très raccourci fait que le cycle végétatif très raccourci de cette variété fait que la variété en question soit de plus en plus exigeante. Je vous donne un exemple.
Oui.
Par exemple, un agrimultiplicateur ou bien un opérateur agricole qui, lors du semis, juste après semis, n'a pas eu de pluie pendant les 5-6 jours qui suivent, cela a affecté négativement le développement de cette variété. Aussi, je vous donne un autre exemple. Si quelqu'un, par exemple, n'arrivait pas à sarquer à temps, parce qu'après le semis, la première opération culturelle qui doit intervenir sur le sarclage, si cette opération ne se faisait pas exécuter à temps, carrément, la suite, c'est déjà un mauvais départ pour l'IRAP 112, parce que ça l'affectait très négativement. Et toutes ces erreurs-là ont des répercussions sur les rendements de cette variété-là. Donc, c'est la sensibilité, l'hypersensibilité de cette variété aux conditions défavorables qui a fait que les rendements soient affectés dans le sens négatif. Mais l'IRAP 13, par contre, il était très performant. C'est une variété qui arrivait quand même à se refaire malgré les conditions difficiles rencontrées sur le terrain.
Alors, qu'est-ce que peuvent faire les agriculteurs pour notamment bien s'occuper de l'IRAT 113 et éviter de mauvais rendements?
Bon, les agriculteurs doivent suivre scrupuleusement toutes les techniques culturelles requises pour le bon développement de cette variété-là. C'est-à-dire que il faut à tout prix être en contact régulièrement avec les techniciens ou notre agronome affecté dans l'acte, suivre les conseils qu'ils donnent, de manière à éviter certaines erreurs qui pourraient amener à des résultats non escomptés.
Voilà, je soumets à votre appréciation la question d'un auditeur, il s'appelle Libois, vient de nous appeler des Badolité, il est originaire des Bosobolo, il voudrait savoir ce qu'eux ils peuvent faire pour bénéficier aussi des semences améliorées de riz à Bosobolo.
Je pense que la FAO est en train d'intervenir dans le cadre des urgences partout où ça vaut la peine qu'il soit là. C'est-à-dire que c'est question seulement qu'il puisse s'adresser à la FAO, voir dans quelle mesure on pourrait intervenir pour essayer aussi de les aider à combattre l'insécurité alimentaire qui est notre ennemi commun.
Et c'est quel type de riz qui est consommé? On sait très bien qu'à Isiro, notamment, c'était du riz blanc qui était récolté par là. Est-ce que les deux variétés, IRAT 112 et IRAT 13, produiront du riz blanc ou du riz un peu gris?
Tout à fait. L'IRAT 112 et l'IRAT 13 produisent le riz blanc. Vraiment le riz blanc.
Et après Isiro, parce que je disais tout à l'heure aux auditeurs, je leur rappelais que l'année 2004 a été décrétée année internationale du riz. Est-ce que vous avez mené ces opérations par rapport à cette décision, à cette recommandation, si vous voulez, de l'Assemblée générale des Nations Unies, ou c'est tout simplement parce qu'il y avait eu la catastrophe de novembre avec le passage des sauterelles migratrices?
Bon, nous avons mené cette action d'abord dans le cadre de l'année internationale du riz. Et si vous voyez qu'il y a eu chance à Isiro, parce que, comme vous venez de me le dire, les sauterelles, les crises migratoires ont dévasté de grandes superficies de son paradis. Alors, les gens se sont retrouvés dans les conditions telles qu'ils n'avaient pas à manger, il n'y avait pas du riz sur le marché, et il n'y avait pas de semences pour reconstituer, pour relancer cette crise-là. Alors, pour éviter la calamité, la FAO déjà intervenu.
Voilà, je pense que nous avons des problèmes de liaison téléphonique. Peut-être que c'est la batterie de monsieur l'ingénieur qui est un peu déchargée, mais peut-être que vous aurez le temps de répondre à cette question d'un auditeur de Kananga. Est-ce qu'il y a une période précise pour la culture du riz ou est dans des zones précises, des endroits précis des cultures de riz?
S'il vous plaît, si vous pouvez répéter la question.
Quelles sont les saisons des cultures de riz et dans quelle zone particulièrement?
ici, dans le district du Haut-Ouélé, nous intervenons dans toutes les zones. Hein. Nous sommes dans toutes les zones. Nous sommes dans la saison. Nous pouvons intervenir. Nous pouvons pratiquer cette culture dans la saison A et même la saison B aussi. Parce que cette culture ayant un cycle végétatif court, on peut l'appliquer deux fois par an, pendant la saison A et pendant la saison B.
Ok, merci beaucoup, ingénieur Jean Wanjou. Nous sommes très contents d'avoir appris autant de belles choses par rapport à ce projet, ce qui est largement un succès. Ça, on a entendu même de certains agriculteurs. Nous vous remercions beaucoup d'avoir permis à certaines personnes autour de Issiro de pouvoir avoir suffisamment de riz dans leur casserole pendant les fêtes qui s'annoncent. Et nous vous en souhaitons d'ailleurs les meilleurs voeux et vous encourageons pour tous les efforts que vous faites dans la zone de Issiro, dans le Haut-Ouélé. Merci beaucoup et bonne journée à Issiro.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Okapi, Okapi à Kananga sur 93 FM.
Voilà, nous vous le disions tout à l'heure en ouverture de ce magazine, il y a du rififi entre des étudiants de l'université de Kananga avec le gouverneur de province. À la base, la fermeture de l'université de Kananga. On se rappelle que l'année passée, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire avait pris la décision de fermer quelques universités privées jugées non viables. Après 10 mois de fonctionnement, les étudiants remettent en cause la mesure du gouverneur qui a fermé qui a décidé de fermer l'université. On va revenir à la genèse de cette affaire avec Marie-Chantal Lumba. Marie-Chantal, bonjour.
Bonjour, Walter.
Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a justifié finalement la colère des étudiants jusqu'à organiser même des marches de colère?
Oui, Walter, tout a commencé la semaine passée par un communiqué du gouverneur de province. Et le gouverneur de province avait ordonné la suspension des cours pour Claudel André Lubaya. Il est question de viabilité des diplômes qui proviendront de cette université, ce qui n'est pas bien accueilli par les étudiants, qui pour la plupart viennent des universités privées fermées par le ministre de tutelle l'année passée, toujours pour des questions de viabilité. Écoutons ce témoignage de Yvonne Emani Badibake, qui est étudiant en deuxième licence économie.
Nous avons commencé par l'extension de l'ULU créée par Moya Ewetu, qui a été fermée suite à la mauvaise gestion. Et après la fermeture de l'extension de l'ULU, nous sommes partis à l'Université francophone internationale, qui était aussi fermée dernièrement. Et la décision a été sortie telle que nous devions nous retrouver à l'Université de Kananga, et un projet d'université qui devait être soutenu par le ministère. Et qui vient d'être aussi fermé maintenant.
Au total, vous avez perdu combien d'argent comme ça?
Oui, à l'Université francophone internationale, nous avions payé 150 dollars qui étaient déjà bouffés. Et ici, à l'Université de Kananga, nous avons payé 136 dollars. Et nous avons même déjà présenté la session. Et nous avons même déjà terminé la première session. Et nous attendions déjà la deuxième session pour certains. Et nous avions déjà satisfait la première session. C'était dans 2 semaines que certains devaient, moi, particulièrement moi, je devais défendre aussi le mémoire.
Maintenant, qu'est-ce que vous voudrez?
Oui, nous voudrions que l'État congolais puisse un peu songer à nous parce que nous n'avons pas souhaité évoluer dans des universités privées, mais c'est parce que l'État n'avait pas créé une université publique ici que nous étions dans des universités privées qui sont fermées. Et l'État a voulu dire qu'il avait fallu créer l'université officielle. Nous sommes partis chez l'État et l'État nous déçoit encore. Si l'État peut un peu essayer un peu de revoir, s'il peut nous endommager parce que nous avons perdu du temps et de l'argent. Et nous sommes ici des familles, un peu des fonctionnaires qui sont mal payés. Et ces fonctionnaires d'État-là sont en train de se dépasser pour payer les Minerval. Et nous payons nos Minerval et Aujourd'hui, on ne surprend pas une décision du gouverneur qu'il a fallu fermer ou arrêter avec les activités de l'UNICAN. Ce qui était chose grave pour nous, une grande déception pour nos familles. Et les universités officielles sont très loin à Lubumbashi, vous imaginez, avec maigre salaire de nos parents. Nous ne pouvons pas partir à Lubumbashi, comment nous allons manger? Ici sur place, on peut même se débrouiller et chercher comment manger. Mais aller à Lubumbashi, aller à Kinshasa, aller à Kisangani, c'est tellement très loin, c'est tellement très loin. C'est pour ça que nous avons profité des universités qui sont sur place.
Yvan Emani Badibaké, étudiant en deuxième année de licence économie. Marie Chantal, après la suspension des cours, qu'est-ce que le gouverneur André-Claudel Lubaya a pris comme démarche?
Bon, il a cherché à rencontrer les étudiants pour trouver un compromis dans la nouvelle orientation de ces étudiants. Pour Lubaya, c'est l'assainissement du milieu universitaire. Je propose d'écouter André Lubaya.
Nous mettons en place une commission qui va pouvoir examiner le dossier de ces étudiants victimes au cas par cas pour trouver une voie de sortie honorable pour chaque étudiant afin de permettre à chacun d'eux d'achever un parcours académique honorable. Quant au DG et son staff, nous allons nous retrouver pour nous regarder en face et nous dire certaines vérités parce que les choses n'ont pas bien fonctionné. Pour l'instant, au niveau du gouvernorat, il y a une commission qui travaille sur la viabilité de toutes ces structures. Et nous avions entamé ce travail par l'UNICAN, qui était un cas très flagrant, et le CIDEP, je crois que c'est d'ici demain, d'ailleurs, c'était prévu pour aujourd'hui, tant de statuer sur le centre universitaire extension de l'université de Lubumbashi. Je crois que si dans l'ensemble, tout ne peut pas être remis en cause, mais il y a certains aspects sûrement qui connaîtront la révolution.
Marie Chantal Lumba, comment le gouverneur pouvait-il fermer une université après 10 mois de fonctionnement?
Une question que se pose la plupart des personnes qui vivent à Kananga, surtout les parents des étudiants qui ne comprennent pas comment l'État, à peine qu'elle ait fermé l'année passée une vingtaine d'universités privées, est-ce qu'elle pourrait encore accepter la création d'une autre? Et pour les étudiants, le gouverneur de province n'a pas la qualité de fermer une université, suivant les propos de cet étudiant.
Nous avons dit non à la commission qui devait être mise en place par le gouverneur de province afin d'étudier les dossiers des étudiants. Notre problème, nous voudrions que Kinshasa seul prenne la décision soit de la réhabilitation de l'UNICAN. Voilà notre requête que nous adressons au ministère des tutelles de l'enseignement supérieur et universitaire, bien entendu. Nous voudrions que l'université de Kananga soit réhabilitée.
Parce qu'ailleurs, jusqu'à présent, le projet de la transformation de l'institut supérieur en université n'est que pour les classes de recrutement. Quelle serait alors votre position? Si c'est cette décision-là qui...
Il faut d'ailleurs pas parler des projets. Je pense que l'université a vécu, du mois durant, nous avons présenté la session, nous avons été délibérés, et à Bukavu, tout comme à l'IPEN, on évolue. Et si on pose des problèmes...
À quel niveau?
On évolue, on n'a pas d'informations précises, mais tout de même, nous savons que l'université est fonctionnelle. Mais à notre niveau aussi, le gouvernement prend sa décision. Nous, on va se plier sportivement à sa décision. Notre problème, nous ne voudrions pas qu'une décision soit prise localement non plus, sans consultation préalable au ministère de tutelle.
Et voilà, Marie Chantal, est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que quand on parle d'université de Kananga, c'est un peu nouveau, comment cette université a-t-elle été créée, comment ça existe?
Bon, il faut dire, Walter, que l'université de Kananga est en fait un projet de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Émile Gold, de vouloir transformer les instituts supérieurs en universités publiques. Et cela devait commencer par les promotions de recrutement. À Kananga, l'Institut supérieur pédagogique deviendrait Université de Kananga. Mais curieusement, jusqu'à présent, après 10 mois de fonctionnement, avec plus de 5 facultés et toutes les promotions, il n'y a jamais eu, selon le gouverneur, un arrêté ministériel portant création de cette université. Alors c'est ce qui l'a poussé à fermer l'université. Mais pour le directeur général de l'ISP Kananga, qui devait bien sûr subir cette transformation, le projet était un acquis, il fallait que l'université de Kananga ouvre ses portes. Walter, il y avait eu un compromis entre une délégation des étudiants et le gouverneur pour cette nouvelle orientation vers que les étudiants devaient aller ailleurs, comment fermer l'université. Et pour la population de Kananga, du moins les personnes que j'ai pu rencontrer, l'université de Kananga est une solution au problème du Kasaïen, même s'il n'est pas possible de réouvrir l'université avec toutes les promotions montantes, mais au moins ouvrir les promotions de recrutement. Mais avec l'évolution du dossier, et cela, on voit que les étudiants, pour l'instant, bon, ils sont pour l'instant dans la rue au lieu d'être dans les auditoires. Et ils attendent carrément que le ministère ou bien le ministre de l'enseignement, le vice-ministre qui est là pour l'instant, de pouvoir trancher l'affaire et trouver une solution à leurs problèmes.
Marie Chantal, merci pour toutes ces précisions. C'est une situation malheureuse pour ces étudiants. Une question qui se pose, qui demeure, c'est comment l'étudiant et même les parents peuvent reconnaître une université viable de celle qui ne l'est pas pour ne pas tomber dans ce genre de situation. Merci beaucoup et bonne journée à Kananga.
Merci Walter.
Okapi.
Okapi. Le Congo à l'écoute.
Voilà, nous allons tenter dans quelques instants d'avoir le ministre par intérim de l'enseignement supérieur et universitaire, Monsieur Jérôme Kamaté, pour essayer de trouver quelques réponses à toutes ces préoccupations des étudiants, ces préoccupations des parents. Je suis en train de chercher à communiquer avec mes collègues de l'autre côté de la baie vitrée. Ils devront me faire signe dans quelques instants pour dire si oui ou non on a le ministre par intérim. Alors, on peut récapituler les problèmes. Ce que l'université de Kananga a été fermée sur décision du gouverneur de province, la province du Kasaï occidental, monsieur André Claudel Lubaya. Il voulait appliquer une mesure de quelques mois auparavant du ministère qui devait qui ordonnait, si vous voulez, la fermeture de toutes les institutions privées qui n'étaient pas viables. Et alors, à ce moment, les étudiants qui avaient déjà fait au moins 10 mois de cours se sont vus dans la rue pratiquement et les cours arrêtés, donc les échauffourées en cours. On peut savoir que Monsieur le ministre par intérim de l'enseignement supérieur et universitaire est en ligne. Monsieur Jérôme Kamaté, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Je suis Walter Mbaïrine du Molondi. La question en examen, c'est la situation qui prévaut à Kananga, où le gouverneur a ordonné la fermeture de l'université de Kananga. Les étudiants disent que ce n'est pas au gouverneur d'ordonner cette fermeture. Êtes-vous au courant de la situation? Comment pouvez-vous apporter solution à ce problème?
En fait, pratiquement, monsieur le journaliste, c'est vous qui m'informez. Nous ne sommes pas ressaisis par les autorités de Kananga et je voulais avoir la précision. De toute façon, ce que j'ai fait, et c'est depuis l'année passée, dans notre programme de réhabilitation des systèmes d'enseignement universitaire dans notre pays, nous sommes obligés d'appliquer certaines mesures de l'assainissement au niveau universitaire. C'est ce qui nous a amené à prendre une décision. Vous le savez très bien, l'année passée, nous avons fermé une trentaine des institutions d'enseignement privé et des institutions d'enseignement privé qui étaient pratiquement répandues sur toute l'étendue de la République après un contrôle de viabilisation. Je ne sais pas si c'est le cas et vous êtes en train de me poser.
C'est ce que le gouverneur du Kasaï occidental a donné comme explication à sa décision, mais la question qui se pose, que se posent les étudiants, est-ce que c'est le gouverneur qui devait prendre cette mesure ou ça devait venir du ministère de l'enseignement supérieur?
Mais c'est quelle fermeture? Parce que les gouverneurs appliquent notre décision. Mais nous avons envoyé une certaine quantité de décisions, une certaine décision à Kananga. Il y a des institutions qu'on a ciblées à Kananga que nous avons demandé à solliciter leur fermeture et nous avons transmis les dossiers au gouvernement. Je ne sais pas si c'est le cas de ces institutions que vous êtes en train de me parler, monsieur les journalistes.
Oui, c'est le cas effectivement, mais ce qu'on voudrait savoir, l'institution, l'université de Kananga en l'occurrence, fonctionnait depuis 10 mois, il y a des étudiants qui étaient déjà en deuxième année de licence, ils avaient déjà passé les premières sessions, d'autres devaient défendre leur mémoire, et la décision vient tomber à ce moment-là. Les étudiants ne comprennent pas pourquoi cette décision tombait à ce moment-là.
Non, la question que je me pose, c'est que l'université de Kananga, ça a fonctionné depuis quand?
C'est l'ancien Institut supérieur de Kananga, c'est l'ancienne ISP Kananga. C'était consécutivement à cette autre décision de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, M. Émile Ngoï, qui voulait transformer les études supérieures en université publique.
Ah, mais là, on se comprend. Là, on se comprend, M. Avoir, on ne se comprenait pas. Il y a un projet introduit par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire afin de modifier la carte universitaire, c'est-à-dire qu'on devait transformer certains instituts supérieurs à université. C'est un projet. Et ce projet, nous l'avons amené au sein du gouvernement, il est en étude maintenant. Alors quand vous me dites qu'il y a des étudiants à l'université de Kananga qui sont en deuxième licence, monsieur le journaliste, je ne comprends absolument rien. La décision a commencé, même le projet, la proposition du projet, c'était l'année passée, aujourd'hui il y a déjà des étudiants en deuxième licence, mais... Il y a quelque chose qui ne va pas et je ne comprends pas quelque chose là-dedans.
Donc nous venons de remettre les pendules à l'heure, monsieur le ministre. C'est donc l'ancien institut supérieur, l'ancien ISP Kananga, qui était devenu université de Kananga et dont certains étudiants étaient à ce niveau du cursus universitaire et qui se demandent pourquoi on doit fermer. Le gouverneur propose des solutions au cas par cas, c'est-à-dire de réorienter les étudiants vers des universités fiables, mais lesquelles au niveau de Kananga, parce que apparemment les plus fiables sont très loin vers le Lubumbashi ou Kinshasa.
Mais moi, je me pose la question. Je viens de vous dire, messieurs les journalistes, qu'on avait un projet de transformer certains instituts supérieurs à université dans le cadre de modification de la carte universitaire de la République démocratique du Congo qui a accusé une certaine déséquilibre. C'était un projet qu'on a soumis au Conseil des ministres. Cela suppose que le gouvernement ne peut pas fermer quelque chose qui n'a pas existé. C'était un projet. Pour le moment, sur notre carte universitaire, ce qui existe, c'est l'ISP Kananga. Mais il y a un projet de transformer, de transformation de cet ISP-là, que nous avons soumis au Conseil des ministres, afin de les transformer à une université. Si c'est accepté, on ne va pas les transformer directement. Le cursus doit commencer, la filière doit commencer à partir des premiers gradus. Vous ne pouvez pas commencer la première gradus comme étudiant à base d'un institut supérieur, et à la fin, en deuxième licence, vous changez les cursus, maintenant ce sont des facultés. Je crois que ça doit se suivre. Même si la transformation est acceptée, il y a une certaine procédure qui doit se suivre. Pratiquement, je crois que c'est la réponse que je vais vous donner, parce que le problème, moi je ne saisis pas très bien le problème. C'est dans ce sens-là que même les autorités de Kananga ne nous ont pas encore saisis jusqu'à maintenant.
Est-ce qu'on peut comprendre que les ISP, un institut supérieur pédagogique comme celui des Kananga, n'est pas concerné par cette mesure de fermeture parce que le gouverneur l'a fermé au motif qu'elle n'était pas viable? Mais c'est quand même un ancien institut supérieur pédagogique.
Mais le gouverneur va fermer l'ISP Kananga avec... je ne comprends pas comment le gouverneur peut fermer l'ISP Kananga. L'ISP Kananga existe. Les DG de l'ISP Kananga, j'étais ici, dans notre séminaire de vulgarisation, je ne suis pas saisi. Je ne suis pas saisi par l'enfermé l'ISP Kananga. Pour moi, l'ISP Kananga existe, pour le ministère, l'ISP Kananga existe. Et les mesures de fermeture, pour le moment, la première phase, ne concernait que les institutions d'enseignement privées, pas d'institutions d'enseignement public. À ce que je le sache, l'arrêté qu'on a signé ici au ministère concernait les institutions d'enseignement privé. Maintenant, nous sommes en train de monter notre mission qui va pratiquement sillonner toute la République pour aller vérifier la viabilité de toutes les institutions universitaires privées et publiques. Et d'autres mesures vont tomber. Mais à ce qui concerne pour le moment, l'ISP Kananga existe. Il n'y a pas de problème à l'ISP Kananga. À ce que moi, je le sache.
Merci, Monsieur le ministre, pour cette réponse. Je vais soumettre à votre attention une question d'un auditeur qui vient de nous appeler.
Ok, je m'appelle Jean Matondo, je suis à Mongafula, ici à Kinshasa. Je voudrais poser une question au ministre en disant ceci. L'IPN aujourd'hui, IKM, est dans la même condition. On a décidé de le transformer en université, mais juste aujourd'hui, il n'y a aucun acte, n'est-ce pas, qui... permet à cet institut de fonctionner aujourd'hui comme université. Et cette situation risque d'imploser demain si les ministres n'arrivent pas à résoudre cette question. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à produire un acte pouvant permettre à l'IPN de fonctionner réellement comme une université? Et une deuxième question que je voudrais lui poser, dans l'essence de savoir pourquoi cette mesure, cette série de mesures prises par le ministre Emile Ngoï n'ont pas été soutenues dans leur réalisation. J'ai l'impression que celui qui est arrivé après et n'a pas continué la tâche commencée par son prédécesseur, alors cette tâche était noble et appréciée par tous. Et troisièmement, la plupart des universités imposent aux étudiants, surtout les premiers gradués, de payer la totalité des frais d'études au début de l'année. Donc la totalité, alors que les parents sont dans de mauvaises conditions. Pourquoi le ministère n'intervient-il pas pour que ces universités et instituts supérieurs puissent quand même fractionner le paiement suivant un calendrier bien défini afin d'aider les parents à faire face à toutes ces charges, puisque beaucoup ont plusieurs étudiants, plusieurs enfants dans les universités et ils ont des problèmes pour payer la totalité de ces frais d'études au début de l'année. Je vous remercie.
Monsieur le ministre Jérôme Kamaté, que répondez-vous à ces préoccupations?
En fait, je crois que l'étudiant qui vient de poser la question, c'est un étudiant de l'IPM.
Oui.
Oui, en fait, nous avons préparé tout un programme au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, comme il a cité lui-même avec le ministre Emile Ngoï. En fait, le cas de l'IPM est un peu différent du cas de l'ISP Katanga. Parce que le dossier de l'IPM a suffisamment évolué. C'était la première phase d'expérimentation que nous, on devait faire. Ce dossier a été amené au niveau du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a statué là-dessus. Il a même créé une commission d'enquête et une commission interministérielle. Nous avons maintenant la suite de cette commission ministérielle. Je crois qu'à la prochaine, on va les programmer au niveau du Conseil des ministres. Une décision sera prise à ce qui concerne l'ISPI. Nécessairement qu'il y aura un acte qui sera pris au niveau du gouvernement. Ça, c'est pour la première question. Dire qu'on n'a pas soutenu les programmes lancés par le ministre, nous sommes là. Je suis l'étudiant suivi dernièrement ce que nous avons fait avec les programmes, la réforme du programme des cours, pratiquement les plans d'action qu'on a commencé avec Emile Ngoï. Ce sont les plans d'action que nous, avec Emile Ngoï, que nous avons trouvé au sein du gouvernement et nous avons cherché à pousser, à donner une nouvelle tonice. Que ça aille de l'avant. Et je crois que c'est une erreur de croire qu'on ne soutient pas. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que ce qu'on a commencé aille de l'avant. Mais on ne sait pas obtenir le tout à la fois. Il y a beaucoup de plaisanteries, mais nous nous battons pour que ça soit effectif. On a programmé tout ce qu'on a programmé avec, on a commencé avec le ministre Mingol. À ce qui concerne les frais académiques, je crois qu'il est de coutume qu'on morcelle ça. Il est parti. Les autorités académiques n'ignorent pas la situation difficile qu'elles sont en train de traverser les parents. Et nous les conseillons de trouver un compromis avec les étudiants pour que c'est toujours difficile de demander à ces copains la totalité. Ils sont aussi parents. Ils savent quelle situation nous sommes en train de traverser maintenant. Et je crois, nous l'avons dit, effectivement, le département opéré par le paiement par rapport au. Par rapport aux difficultés que les parents ont maintenant et par rapport aux besoins de l'établissement aussi. Parce que la difficulté, ça se trouve aussi au niveau des étudiants. Ils ont plus facilement, ils payent plus facilement au début de l'année, mais quand les choses évoluent, ils ont la difficulté de payer vers le milieu de l'année et ça crée des difficultés aussi au niveau des établissements. C'est ce que je vais dire à cet étudiant.
Monsieur le ministre, celle-ci va être la dernière question. Elle nous vient de Lubumbashi, une auditrice qui s'appelle Adeline Leoussa. Pourquoi le gouverneur devrait attendre 10 mois pour exécuter la décision du ministère? Normalement, selon Adeline Leoussa, il fallait que le gouverneur attende la fin de l'année académique. Le calendrier académique est perturbé à cause de lui, écrit-elle, et qu'il va rendre un mauvais service à ses étudiants.
Je n'ai pas bien saisi la question. Il demande quel gouverneur, le gouverneur de Kananga ou le gouverneur de Lubumbashi? Parce que je pense que Lubumbashi, il n'y a pas de problème.
Non, non.
Nous parlons de Kananga.
Elle parle du gouverneur de Kananga qui a pris cette décision après 10 mois de fonctionnement. Selon Adeline Leoussa, le gouverneur aurait dû attendre la fin de l'année académique au lieu de perturber un cursus des étudiants.
De toute façon, moi, c'est la réponse que moi je vous ai donnée. J'ai dit, pour nous, l'ISP Kananga existe. C'est que nous, de toute façon, il n'y a pas de problème à l'ISP Kananga. Mais le gouverneur a pris quelle décision par rapport à l'ISP Kananga? C'est là où je n'arrive pas à saisir le problème. L'ISP Kananga existe, et au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, pour amener la précision, nous avons préparé un projet de transformer certaines institutions supérieures à l'université. C'est un projet. Ce qui fait que l'ISP Kananga, pour nous ici au niveau du ministère, il existe.
Voilà qui est bien dit et la précision est détail parce que il y a une espèce d'incompréhension même au niveau des étudiants et des parents eux-mêmes. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir répondu, d'avoir suspendu certaines de vos activités pour répondre à cette question des grands intérêts pour tous ces étudiants de Kananga. Nous comptons sur votre disponibilité pour éclaircir les problèmes et donner davantage de précisions par rapport à l'évolution de ce projet qui est en étude au niveau du gouvernement.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonne fête de Noël. J'en profite pour souhaiter bonne fête de Noël à tous les étudiants de la République démocratique du Congo. Et nous espérons que l'année 2005 sera une année de responsabilité. Nous aurons des étudiants responsables, des étudiants qui aiment leur patrie, des étudiants qui vont démontrer qu'ils seront demain les futurs dirigeants et qui prendront en charge la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Radio Okapi, le rendez-vous de l'information.
Okapi Action, nous poursuivons ce magazine en rentrant cette fois-ci et finalement dans l'effervescence des fêtes de fin d'année. Noël arrive, vive les décorations, non seulement dans les maisons mais aussi dans les rues. À Kinshasa, sur l'avenue Maringa, on a vu des jeunes gens de la commune de Kasavubu commencer à monter des magnifiques ballons d'air multicolores pour donner l'image, la carte postale de la fête. D'un bout à l'autre de certaines avenues, on peut admirer ces ballons et toutes sortes d'ornements magnifiques. À défaut d'avoir donc chez soi un sapin de Noël, la beauté d'une avenue parfaitement décorée traduit bien dans les esprits une période de fête. On en parle avec Marcel Gombo qui a eu le temps d'admirer ces œuvres qui sont en train d'être montées de tous bords, dans certaines rues de Kinshasa. Marcel, bonjour.
Bonjour Walter.
Marcel, tu as fait le tour de quelques communes. Est-ce que dans les rues et les avenues, le décor des fêtes est déjà bien planté?
Walter, nous avons en effet été dans quelques communes. Il faut dire que pour le moment, elles sont vraiment rares, ces rues et même ces avenues ornées aux couleurs de fêtes. Aussi bien dans certains quartiers traditionnellement réputés chauds et festifs, comme Matongé, Kauka, Imokongo, pas encore le moindre éclat de fête dans les avenues.
Mmh. Mais alors, est-ce dire que les Kinois n'ont pas du tout le cœur à saluer la fête de Noël par cet éclat de fête qui s'est traduit depuis quelques années, surtout par la décoration des avenues?
Non, pas du tout, Walter, puisque nous avons eu tout de même à repérer dans la commune de Kasavubu, précisément sur l'avenue Maringa, un décor de fête avec ballons d'air multicolores et autres guirlandes de Noël suspendues de part et d'autre d'une bonne partie de l'avenue. Mais seulement il y a un problème, Walter, les habitants disent ne pas comprendre une descente de la police les empêchant de décorer l'avenue à leur goût, suivant plutôt cet habitant de l'avenue Maringa.
L'organisation de la communauté de la communauté de la communauté de la communauté
la bande quoi besoin qu'il y ait 200 francs ils ont payé ça malheureusement sans problème
parce que ça va pas se faire pas moi babé c'est ma boule tu babé ma boule ouais ça les bons c'est moi bon continuer bana n'est une boutique tu viens tu tiques pas pour te moi dérangement en tout cas mais par parce que ça va 200 francs 300 francs pour te décorer baba la chose à propre pour la chose à quartier non les abouer mais ce budget de ça va organisation à bisou 500 francs 300 francs à bisou tu bimara ça de quoi que matin on a que non dans la quartier la ngai la chez propriétaire la quartier la ngai mis moi ma chaise à pembe le bossa parcelle la ngai la chez moi musique la chez moi le bossa ndako la ngai tout ça organisation chez ça rendez moi
On aura tout à l'heure des éléments d'explication avec le gouverneur de cette commune, le monsieur Abdoul, sera notre invité au cours de l'émission. Marcel, je reviens à vous. On vient de l'entendre, ces jeunes hommes parlent des parents qui sont contents de les voir décorer les avenues et les rendre également propre, raison de plus pour que ses parents sont disposés à donner soit 200 francs, voire 300 francs congolais que les jeunes gens leur demandent pour ce travail. Alors comment réagit-on face à l'intervention des éléments de la police?
Nous avons abordé un des parents habitant cette avenue et qui pour sa part ne comprend absolument rien de l'attitude de la police. Son souhait est qu'on laisse les enfants faire calmement leur travail, car c'est juste pour la période de fête. Je vous propose de l'écouter.
Donc c'est le gouvernement la biso attique la biso calme. Ils allient fête partout dans le monde. Ils allient qui est battu basse pela. Natango où est-ce qu'il est basse pela? Natango à Mawa, ils ont rappelé Mawa. Où est-ce qu'Natango bise? Vous pas une somme à basse pela. Mais attique la biso libre. Ils ont Natango basse pela. Attique à bas la basse pela. Tous ceux qui ont moyen n'ont déjà pas passé. Attique la biso. Les lois sont bouleversées dans la mi-ouane. Ils ont une incompréhension. Peuple n'a pas ça au sein de bouleuter. Peuple n'a pas ça. Botika et Kimia. Baso bête à massacre.
Et voilà, on a vu des images des Land Rovers, de la police, des échauffourées, j'allais dire. Des pneus ont été brûlés, c'était pas agréable à voir. Mais bon, on a constaté que les rues sont très belles, hein, par moment, par endroit, dans la ville de Kinshasa. Mais on se pose la question, à l'intérieur des parcelles, comment ça se passe? Parce que l'occasion des fêtes, c'est une occasion de visite familiale, les uns les autres vont rendre visite. Bon, il y en a qui dorment, enfin. Mais la propriété dans les parcelles, est-ce que Marcel, vous avez jeté un coup d'œil à l'occasion pour regarder comment c'était à l'intérieur des parcelles?
Docteur, c'est vraiment opportun de le souligner. À la fête de Noël comme celle de Nouvel An et dans notre tradition, l'occasion de retrouvailles. On reçoit, comme tu le disais, tantôt la visite des amis, de membres de famille. Et le moment est donc tout indiqué de mettre davantage de la propriété dans les parcelles et dans les endroits susceptibles d'être utilisés par les amis et les membres de famille. Suivons plutôt à ces sujets et ces parents de l'avenue Marina.
Oh mama bongisi ya ye, baninga pe ba bongisa pona koyamba bapaya o bakoya kotala bango na mokolo ya eyenga.
Walter, j'avais poussé un peu plus loin ma curiosité. Oui. Je suis parti à voir de mes propres yeux à ces toilettes. Il faut dire qu'elles étaient propres.
Elles étaient propres. Voilà. Qu'on fasse comme elles, heureux qui comme Ulysse, comme qui dirait. Merci Marcel. Bonne fête. Je sens dans ta voix que tu y es déjà. Hein.
Voilà Walter, merci à toi aussi.
En évoquant les travaux que sont en train de faire certains jeunes de certaines communes de Kinshasa pour décorer... pour décorer leurs avenues et tout pour le mieux. C'était le cas notamment sur l'avenue Marinda où des jeunes gens étaient en train de décorer et pendant que ça se faisait, des éléments de la police sont venus interdire. Bon, on s'est posé des questions, mais pourquoi la police est intervenue? Enfin, nous ne pouvons pas faire des spéculations. On a eu la chance d'obtenir l'accord du bourgmestre de Kasavubu, Monsieur Abdoul, qui est avec nous en studio maintenant. Monsieur Abdoul, bonjour.
Bonjour.
Bonne fête déjà.
Et merci, je vous le réciproque.
Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé que les éléments de la police soient intervenus pour
arrêter les travaux de décoration des jeunes de Maringa et de quelques parties de Kasavubu.
Voilà, bien, merci pour la question. Et ici, j'aimerais porter un rectificatif.
Oui.
C'est-à-dire, les éléments de nos forces sont arrivés sur place, c'est dans le cadre de l'opération coup de poing.
Oui.
Donc l'opération coup de poing a commencé depuis le mois de juin. Et nous, nous sommes la dernière commune du deuxième pool dans le cadre de l'opération coup de poing. Alors, la confusion est entretenue par un certain monsieur Robert Poutou, qui habiterait sur l'avenue Bomboma numéro 65, dans le quartier, au quartier Katanga, dans la commune de Kasavubu. En fait, monsieur Robert Poutou a organisé l'année dernière Chaleur Katanga. Et nous ne sommes pas contre.
Chaleur Katanga, c'était quoi?
C'est-à-dire, vous avez la grande artère qu'on appelle Chaba. C'est une des grandes artères de la commune de Kasavubu. Et on a eu fait une espèce de kermesse de rue. Or, l'autorité urbaine a pris une décision depuis le mois de juillet, la lettre qui date du 2 juillet, interdisant les kermesses de rue. Donc, pour organiser une manifestation, il faut au préalable une autorisation. Et ce qui n'était pas chose faite. Nous ne sommes pas contre la décoration. Je l'ai dit à travers plusieurs chaînes de radio et de télévision, que la population se tranquillise. Il y a une confusion entretenue par M. Robert Mputu. En fait, il a commencé à écrire auprès de l'autorité urbaine, mais l'autorité n'a pas encore donné l'autorisation. Et quand les éléments sont arrivés dans le cadre de l'opération coup de poing, mais il y a des gens qui racontent, qui disent que M. Le Boumès a perçu de l'argent. Il y a un mécanisme pour la perception de l'argent au niveau d'une entité administrative décentralisée. Ça passe par le centre d'ordonnancement, soit chez le comptable ou le comptable subordonné ou le percepteur principal, moyennant une note de perception. Donc, et que la population ne s'agite pas.
Que dites-vous, bilingue ou ya Kasavubu, au Bazolinga, dainga nyoso, batia ka ba décoration, batia ba mbila, batia malala, batia ba jeu de lumière, tout ça. Est-ce que ces jeunes-là doivent continuer basalango?
Oui, mais décoration to lingiango, pona ba fête. Mais to boine bat basenga bambongo parce que monsieur Robert Mputu aza agent de l'état te aza na qualité requise te ya kozwa mbongo ya l'état isa na mibeko o bazuela yango dia zozwa bango balobi apesi badge wana eza na cachet ya mutualité eza na cachet ya communauté hein. Donc c'est problème ezali nde ya ye ayebi yango ata place azali soka zola nanga ayebi. A Komagi na bilo nanga plus de 5 fois. Dernièrement, a Komagi na ndako le dimanche, dimanche avant à Makamuna Ewana. Donc, to ngana salaki rapport et pas ya la hiérarchie. Et jusque-là, il n'y a pas une autorisation. Donc, je m'en tiens à la décision de la hiérarchie.
Donc, s'il faut se résumer, les jeunes gens de Kasavubu peuvent continuer à décorer.
Ils peuvent décorer les avenirs. Pour preuve, sur Maringa, sur Fosse Publique, sur autant d'avenirs à Kasavubu, nous en avons 112. Et donc, les gens décorent. Il y a ceux qui plantent, je sais pas moi, de espèces de plantes comment naturelles. Et le soir, ils jouent leur musique. Personne. C'est le moment de fête. Mais on ne peut pas tenir une kermesse de riz sans autorisation préalable. Ça, c'est pas à l'autorité locale que je suis. Je dois me décider, c'est l'autorité urbaine. Il y a un texte, il y a une lettre.
Donc, vous voulez dire ici que monsieur Poutou voulait organiser une kermesse de riz sans avoir reçu les autorisations préalables?
Oui, pour preuve encore, il y a hier. Un autre, j'ajoute un élément. Hier, il y a une lettre du chef de division de la culture et art qui acquise réception parce qu'il lui a réservé une copie. Et le monsieur, le chef de division, acquise réception. Et ça ne témoigne pas une autorisation. Lorsqu'on acquise réception, c'est dans l'administration. Vous avez écrit à quelqu'un, vous avez réservé une copie. Et par la courtoisie la plus élémentaire, il acquise réception. C'est pour dire que ce n'est pas le chef de division, c'est l'autorité urbaine qui donne l'autorisation.
Que conseillez-vous à M. Mputu qui nous suit peut-être maintenant?
Oui, M. Mputu doit, il ne peut pas fouler la loi au pied, doit respecter la loi et qu'il aille
attendre.
Oui, qu'il aille demander à l'autorité urbaine. Et l'autorité urbaine réagira, si c'est positivement ou négativement. Ce n'est pas à moi de faire une pression à l'autorité urbaine. C'est une autorité, elle prendra son temps pour apprécier si la kermesse a une opportunité à ce moment ici, où il y a, dans une période tumultueuse chez nous. Mais c'est seulement à l'autorité, c'est pas monsieur le bourgmestre.
Lorsque il y a la période des fêtes, les gens veulent bien fêter, rester tard la nuit, et écouter la musique, mais c'est pas tout le monde qui supporte notamment un volume très élevé de musique. Qu'est-ce que vous pouvez prendre comme mesure pour que les fêtards fêtent, mais qu'ils ne dérangent pas ceux qui ne veulent pas avoir un volume très haut?
Merci, c'est un problème de tapage. Il y a un texte réglementaire. Nous avons fait une campagne à travers la sensibilisation et la conscientisation avec mégaphone pour dire aux gens qu'on évite le tapage nocturne et diurne. Donc, on ne peut pas empêcher à quelqu'un de dormir chez soi. Et c'est vrai, il y a la fête, mais la fête ne peut pas déranger tout. On doit respecter le voisin, on doit respecter la voisine. Donc, nous demandons seulement à la population de la commune historique de Kassavubu de doser pour permettre à tout le monde de faire son travail et de dormir mieux chez lui.
Monsieur le bourgmestre, les Kofia Yangombe ou bien Bata, les pétards en fait, c'est de ça que je veux parler. On en attend encore, les personnes hypertendues ont du mal à supporter ça. Quand ça vous pète à 2 mètres, vous avez l'impression que c'est un canon.
Voilà, là aussi l'autorité urbaine a été claire. Il y a une lettre qui date de plus d'un mois, que nous avons répercuté auprès des chefs de quartier, des chefs de rue, interdisant le pétard. Donc, nous nous en tenons à la lettre de l'autorité urbaine, l'interdiction des pétards. Parce qu'il y a, à part seulement les hypertendus, mais ça, pendant cette période, ça ne fait pas une bonne figure, vous comprenez. Il y a les émotifs, il y a autant de problèmes, mais il y a une interdiction. La lettre, elle est là. Et nous demandons aux chefs de quartier, aux chefs de rue, de veiller. Et même à nos services spécialisés de veiller pour éviter de troubles dans la commune historique de Kassavubu.
Est-ce que la commune historique de Kassavubu que vous dirigez actuellement a prévu une manifestation particulière pendant cette période des fêtes?
Bon, c'est vrai. Le 30 décembre, au niveau du jardin communal, et nous avons pensé à fêter avec les enfants. Ça sera le Parlement. Les enfants qui sont parlementaires, il y aura juste quelques remises de cadeaux, quelques récitals de poèmes, un extrait d'une pièce de théâtre dont nous pensons fêter avec les enfants parlementaires de cette manière-là. Ça sera le 30 au jardin communal de Kassavubu.
À partir de quelle heure?
À partir de 11h30, parce que nous sommes pendant les fêtes et il faut que les enfants et trouvent un peu leur compte là-dedans.
Fêter dans la sécurité, c'est toujours mieux. Qu'est-ce que vous garantissez aux habitants de la commune de Kassavubu qu'ils auront le calme, la tranquillité, la sécurité pendant cette période de fête?
Oui, Kassavubu n'est pas une commune, à part certaines parties où nous reconnaissons l'ex-cimetière, la frontière entre la commune serre de Kinshasa où se posent des petits problèmes, mais d'une manière générale, nous n'avons pas un problème de sécurité. Et nous pensons, et avec nos services spécialisés qui feront un travail, qui abattent un travail pour que la paix règne à jamais dans la commune de Kassavubu.
Mais il y a des zones noires parfois où il n'y a pas d'éclairage public, monsieur le bourgmestre.
Ça, nous demandons. Et l'appui de l'autorité urbaine, les agents de la SNEL, de veiller parce que pour permettre à toute la population de bien fêter.
Est-ce qu'au niveau de la commune, vous n'êtes pas capable d'acheter, de remplacer une ampoule dans un projecteur pour l'éclairage public?
La commune, à chacun fait son travail. Nous avons des limites. L'éclairage public, ça revient à la compétence de l'autorité. Donc nous ne pouvons pas empiéter dans le cadre de fonctionnement normal. Nous devons respecter les textes et l'éclairage public parce qu'au niveau de la commune, nous avons les murs sont éclairés, hein, l'endroit de la maison communale. Nous avons pris des dispositions depuis que nous sommes là, c'est bien éclairé. L'éclairage public, c'est dans le cadre, en respectant les textes de l'autorité hiérarchique. Donc ça ne dépend pas de la commune.
On va se résumer, M. Abdoul. Donc les décorations continuent, les jeunes gens, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune interdiction.
Oui, les décorations dans le but de ne pas percevoir l'argent. Parce que l'espace aussi, ça pose un problème dans l'espace Katanga. L'espace Katanga, Katanga Chalet, là où le bas blesse, c'est-à-dire M. Robert Mputu, il a fait des t-shirts, il a fait des badges, et il a vendu l'espace devant le parcelle d'autrui. Donc, ce n'est pas la commune qui a demandé. Je demande à la population de vraiment de comprendre, de ne pas jeter le discrédit sur le Bourgmestre. Le Bourgmestre, il n'est pour rien dans cette histoire. On doit respecter la loi.
Mais le problème, c'est que aussi, quand il y a, ma foi, trop de décorations, il n'y a plus de passage pour les véhicules.
Voilà, nous demandons de suivre l'exemple de l'avenue Force Publique. Le tronçon à Sosa vers le centre d'Aké, vers Sayo. Nous demandons de faire, de conjuguer un exemple, de voir l'exemple, si je permets moi la tautologie, de l'avenue Sport. Il y a vraiment, c'est une décoration particulière, il y a de l'espace, le véhicule passe et je suis, la maison communale est sur l'avenue Sport, mais ça nous permet, partant de Birmanie vers Sayo, il y a une décoration, mais les gens passent. Il y a sur Maringa aussi, il y a une décoration, mais le véhicule passe. Il y a même sur là où j'habite, sur l'avenue Djolou, il y a une décoration au début et le véhicule passe. C'est ce que nous demandons, qu'on dégage le passage de véhicule, mais qu'on fasse la décoration devant chez lui.
Quelque chose qu'on a retenu, les avenues Birmanie, Sayo, ça rappelle les anciens combattants, la commune Kassavubu est vraiment historique. On aura un jour l'occasion de raconter pourquoi on a nommé telle avenue, de tel nom. Espérons que vous serez encore là. Monsieur Abdoul, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël et de bonne année et que vos projets se réalisent. Qu'est-ce que vous allez faire pour 2005, pour les habitants de votre commune? Le meilleur cadeau que vous allez leur offrir?
Le meilleur cadeau, c'est-à-dire maintenir l'administration, une administration de proximité, d'être à l'écoute de la population et la population doit nous accompagner dans toutes nos œuvres.
Et la propreté,
la salubrité, la salubrité pour nous c'est notre cheval de bataille. Depuis que nous sommes là, pour preuve, nous avons une mini brigade composée de jeunes gens vaillants qui nous aident à curer les différentes avenues, qui nous aident à faire sortir les sables. Et donc la salubrité pour nous c'est un mode de vie, c'est une philosophie.
Abdoul, je rappelle que vous êtes Bourgmestre, la commune de Kassavubu. On résume que les jeunes vont continuer à faire les décorations, respectant de laisser un passage pour les véhicules, et que l'échafaudé qui est venu, c'était à la suite de l'érection d'une espèce de kermesse dans les rues, ce qui n'est pas encore autorisé par l'autorité de la ville de Kinshasa. Et donc, il faut attendre cette autorisation avant de monter cette kermesse des rues.
Merci.
C'est ce qu'on doit comprendre.
C'est ça, absolument. Donc, on doit respecter les textes. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Mais qu'il plaisera à l'autorité d'apprécier à sa juste valeur.
Merci beaucoup et bonne fête.
Merci.
À 48 heures de Noël, on observe déjà une forte effervescence dans les familles. On veut à tout prix faire la fête. Seule la volonté ne suffit pas. Il faut avoir les moyens de ses voeux. Comment bien manger à moindre frais? Comment faire une belle fête sans trop dépensé. On va faire une tentative de réponse avec maman Monseka qui est productrice d'une chronique gastronomique sur la télévision nationale depuis une dizaine d'années. Maman Monseka sera avec nous ici en studio. Elle va nous proposer, c'est sûr, je suppose, des recettes très bien, des fêtes et à moins cher. Je vous laisse d'abord écouter ce reportage de Jolie Mbalivoto qui est allée à la rencontre des gens qui sont en train de préparer les fêtes.
Mmh.
C'est la fête de Noël. Partout à travers la ville de Kinshasa, on retrouve cette belle mélodie. Signe pour la population congolaise que la Noël arrive très bientôt. Marchés, boutiques, cabines de communication, supermarchés sont décorés. Dans certains endroits, les murs sont recouverts de parures fantastiques au milieu d'un décor de contes de fées. Il faut cependant reconnaître que tout le monde ne vit pas dans ce monde. Si les uns ont des moyens capables de se procurer ce dont ils ont besoin pour la Noël et le Nouvel An, les autres n'ont pas ce luxe. Pour dire que ces deux fêtes vont passer inaperçues dans certaines familles faute de moyens financiers.
Bon, aux hommes, en tout cas, mon désamnéloyébi, ils ont abattu sur ce bazar parce qu'ils m'ont gouzaté, mais ils bazo fêté. Ils ont d'autres gens parce que la possibilité.
Ouais, fêter bien la fête, c'est trop difficile que les gens n'ont pas vraiment assez de moyens quoi. Les gens n'ont pas encore d'argent. Il faut que le gouvernement prenne les choses en main. C'est ça.
Chose curieuse. Quoiqu'une partie de la population kinoise se plaint de manque de moyens financiers, les rues de Kinshasa ont cependant pris un air de fête. Elles sont envahies par des gens, hommes, femmes et enfants, tous accourent vers les boutiques des Chinois où les articles sont vendus deux fois moins cher qu'au marché. On les écoute.
Bon, là, comme c'est ma toute première fois à Roya, alors, en tout cas, nous avons bien. D'après Nga, nous depuis par rapport au marché, nous avons vraiment la prise normale.
Les arabes moins chers.
Par rapport à la transformation de la zone,
Ming Bayar au Somba, la monnaie à Bakir au Teka la Bazan.
Ah, vraiment, c'est trop impressionnant. C'est bien. Mais les prix par rapport à ceux du marché ici, quand même, c'est bien. C'est bien, c'est bien.
Ce point de vue n'est pas partagé par tous.
Le fleur, mon beau Zaliawa, ils en ont 50, les bandes à boucher 100 francs. Vous avez un bloc cher, beaucoup ça. Surtout, ma fleur, 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 ma
fleur, ma fleur, ma fleur, ma fleur, ma fleur, ma fleur.
Comment se prépare la fête de Noël et de Nouvel An à travers les familles kinoises? Il faut savoir qu'à Kinshasa, comme partout ailleurs dans certaines villes de la RDC, la Noël c'est la fête familiale la plus importante de l'année. Le jour de Noël, les familles se permettent de faire des dîners composés des mets savoureux, pour dire qu'elles se sacrifient même avec un petit rien.
Dans l'année, le monde est mati, mais le monde est dans la ville, dans le monde est allé, dans le monde est allé, dans le monde.
Ce qui est sûr, c'est que chacun d'entre nous garde des souvenirs très forts de Noël. Décoration maison, sapin, Père Noël et autres. Noël désigne aussi des chants religieux propres à cette fête. Faites à tous.
Vous allez chanter ça à la nuit de Noël. Ça nous fait déjà rêver. Douce nuit, sainte nuit. Je ne voudrais pas continuer. Le studio est plein de l'autre côté. Non, j'arrête. On va retrouver Madame Monsika. Je vous le disais tout à l'heure. Je vous ai donné un proverbe de chez moi qui dit littéralement ceci, que c'est ce qu'il y a dans le ventre qui porte ce qu'il y a dans le dos. Ça veut dire que il faut bien fêter, il faut bien manger. Vous avez entendu dans ce reportage de gens dire qu'il n'y a pas assez d'argent. Comment on va fêter? On va écouter et recevoir une spécialiste des recettes culinaires. Elle nous apprendra des choses. Je reçois une figure de proue de la télévision nationale congolaise. C'est Maman Mati Loela, qu'on appelle si gentiment Maman Monsika, parce que c'était le nom d'une émission qu'elle présentait depuis très longtemps. Laissez-moi vous dire que Maman Monsika travaille à la télévision nationale depuis 1965. Bonjour maman.
Bonjour meilleur vœu.
Merci pareillement. Si vous pouvez vous rapprocher légèrement du micro. D'accord. Merci. Depuis 1965, elle est productrice des chroniques à la RTNC et les chroniques culinaires depuis 1979.
Ouais.
Il y en a qui n'étaient pas nés. Non. Ou qui était tout bébé.
Ça fait très longtemps, effectivement.
Ça fait très longtemps. Ouais. Alors, parlons des cuisines. Les fêtes arrivent, on est à 2 jours de Noël. On a entendu des gens dire qu'il n'y a pas assez d'argent, comment on va fêter?
C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'argent, mais vous savez, le peuple congolais est un peuple, je dirais, très social. Mmh. Dans ce sens que quand quelqu'un a quelque chose, c'est pour les tantes, c'est pour les oncles, c'est pour tout le monde.
Oui.
Donc, on sait partager.
Oui.
On sait partager, quoi que la situation soit très difficile. N'empêche que quand une personne doit supporter 1000 personnes, le budget, même s'il était gros, ça devient insignifiant, il est très réduit.
Mmh.
Mais avec peu d'argent, on peut faire beaucoup de choses, c'est vrai. Le problème avec nous, c'est quoi? Nous voulons que pendant les fêtes, faire des trucs spéciaux, manger un plat spécial, manger et dépenser beaucoup. C'est une raison, c'est vrai. Quand on arrive à la fin de l'année, on se dit, j'ai vécu pas mal d'événements au cours de cette année. C'est normal qu'à la fin de l'année, que je me fasse quand même plaisir et que j'achète quelque chose, que je fasse plaisir à mes enfants, que je me fasse plaisir à moi-même, que je fasse la fête.
Oui.
C'est tout à fait normal, c'est légitime. Mais quand la poche ne le permet pas,
c'est là le problème.
Il faut vraiment faire la politique de ses moyens, les moyens qu'on a.
Oui.
Donc, pour les Quinois, surtout pour les Quinois, parce que je sais que les Quinois aiment beaucoup les madis.
Mm.
Je crois qu'à pour la fin de cette année, moi j'avais prévu de faire les madis. D'abord, ça coûte moins cher et on peut en trouver un peu partout dans tous les marchés. Parce que s'il faut faire comme dans les pays occidentaux, aujourd'hui c'est une journée spéciale.
Mm.
Il faut une dinde, il faut peut-être un gros canard, il faut un gros poulet, ça coûte cher. Mais avec...
Vous avez parlé de madis. On mange les madissous souvent, mais comment faire en sorte que le madissou qu'on va manger soit spécial par rapport au madissou de tous les
jours? J'en viens. Le madissou spécial, chacun de nous peut faire de son madissou un madissou spécial. Parce que la préparation est très simple. On commence par faire bouillir pour que ça devienne tendre, pour ramollir les graines de madissou.
Mm-hmm.
Ensuite, on prépare sa sauce. Alors, c'est là que ça devient spécial.
Uh-huh.
C'est-à-dire que dans notre madissou, nous devons utiliser l'huile de palme.
Oui.
Parce que l'huile raffinée, ça coûte encore très cher.
Oui.
Et l'huile de palme est d'abord très riche en vitamine A.
Mm-hmm.
Et puis, c'est une bonne huile.
Mm-hmm.
C'est une très bonne huile. Et ça améliore le goût de madesso.
Mm-hmm.
Ensuite, dans notre madesso, parce que le Congolais, quand il prépare les légumes, le madesso, c'est une légumineuse.
Oui, déjà.
C'est un peu un légume.
Mm-hmm.
Quand on prépare le légume, on ajoute toujours quelque chose, soit du poisson fumé, soit de la viande. Le poisson fumé, ça coûte un peu cher. Mais moi, j'ai pensé aux saucisses.
Uh-huh.
Pas les saucisses que nous achetons dans les grandes surfaces, mais les saucisses qu'on trouve dans pratiquement tous les marchés dans les chambres froides.
Uh-huh.
Ça a 300 grammes, mais c'est bon et ça coûte à peine 250 francs.
Mm-hmm.
Alors, ces saucisses-là, ce sont les saucisses de poulet d'ailleurs.
Mm-hmm.
Dès que vous avez bien préparé votre madesso, vous préparez la sauce à côté et vous prenez les saucisses, vous les coupez en cubes, vous mélangez avec votre sauce et vous mélangez dans le madesso. N'oubliez pas, je l'ai dit, la sauce doit être préparée avec l'huile de palme.
Voilà.
Non pas parce que l'huile de palme coûte moins cher, mais parce que l'huile de palme est très riche en vitamine A et ça va également aider à la croissance des enfants.
Voilà.
La vitamine A, tout le monde connaît, bon, ben, ça fait des bonnes choses.
Oui.
Donc, ces madissous-là, vous pouvez les... dès que vous mélangez, excusez-moi, j'arrivais à la...
Oui, on mélange.
Vous mélangez votre sauce avec les madissous, vous laissez cuire à peine 10 minutes.
Mm-hmm.
Juste le temps que la sauce se mélange avec les madissous.
Oui.
Et... votre repas est prêt.
Voilà. On veut le manger avec quoi? C'est madissou spécial.
Le madissou d'habitude, saucisses. C'est avec le riz.
Oui.
Mais avec la chikwangue, ça peut aller.
Oui.
Avec le foufou aussi.
Avec le lituma aussi.
aussi, mais pas le lituma, avec les bananes.
Avec les
bananes. Les bananes plantées, parce que le lituma, il faut piler.
Oui, oui, oui.
Pas le lituma pilé, avec les bananes.
Ok.
Plantain,
oui.
Préparé nature, ou alors avec les patates douces.
Ok.
Ça va très bien avec les patates douces. Mais les saucisses et les madessous, ça fait un peu cassoulet, un peu.
Un peu cassoulet.
Un peu cassoulet.
Et tout ça, ça coûte un peu, à peu près combien en termes d'argent?
En termes d'argent, les madessous, ça fait 280 le sacombi.
Mm-hmm.
Deux sacombi pour une maison de 5 personnes,
mm-hmm.
ça fait déjà 500.
Mm-hmm.
Si nous prenons les 250, ça fait 250 pour la saucisse.
On
en tout cas, avec 1000 francs.
Avec 1000 francs.
On peut faire quelque chose.
Voilà.
Wow.
Et bien voilà. Le madesso saucisse.
Les madesso saucisses.
Mais il faut ajouter les 300 francs, les 300 francs pour les bananes, hein, ou pour le riz.
Non. Quand je dis 1000 francs, c'est juste pour les madesso.
Ah,
parce que
n'oublie
pas, il faut les tomates, il faut les oignons,
il faut
tout ce qu'il faut pour élever un peu le goût de madesso.
Oui.
Et évidemment, les saucisses. Mais ça coûte avec 1000 francs.
C'est déjà bon.
Et vous ajoutez 2-3 sacombi de riz.
Et ça va.
Et ça va.
Et c'est dans la poche.
Voilà.
Mais une question de Bibi Chumputu de Kinshasa. Ndengenini Bolamba Kapondo et Alimbondo. Rapidement. C'est une question pour vous en 1 minute 30, je ne sais pas.
Ah, 1 minute 30, je ne sais pas si j'y arriverai. Mais le Pondo Alimbondo, c'est ça, Ndengenini Bale. Pondo Alimbondo, c'est le Koko Balamba normalement. C'est tout ça, il y a le Mungo Alimbondo. Mungo wana d'ailleurs ils a passé pour un roman ango actron hein en français va bien un roman n'ego ou bien t'es pour nous alimondo auto la magana bicarbonate de soude auto zoka na ba pharmacie mais pour nous alimondo pour nous ils a répondu c'est à dire auto ngoli pour nous n'ayons normalement soko linko tout à tout ça dépend soko linko tout à terre pour blanchir ango na mai et puis au kati kati ango na maboko wana na côté à province orientale va bien ango li folo toto pour na ba tout à Il faut le faire. Pondo na yo est comme prêt. Pondo alimondo souvent balé on va na likemba côté là ou bien te lituma ou bien te kwanga en tout cas na loso penda
isimbakate. Maman Mathilo est là. Maman Moseka, elle est fait des productions à la télévision depuis 1965 et puis la cuisine sur la télé depuis 1979 avec peu d'argent. En tout cas, autour de 1000 francs, vous mangez très bien. Elle nous a fait une recette de pondou aux saucisses. Plutôt, madessou, haricots aux saucisses.
Voilà,
haricots aux saucisses. Et puis, elle répondait à la question de Bibi sur les pondou yalimbondo. Merci beaucoup, maman Mati, d'être venue. Bonne fête déjà.
Merci.
Moi, je salive. Je vais essayer la recette parce que j'ai fait la cuisine moi-même chez moi. Je vais essayer ça. Mais voilà, Okapi Action, on va se quitter sous ce rire franc de maman Mathie Loela et de tous les auditeurs qui ont apprécié la recette. Toute l'équipe de production se réjouit de votre attention et vous donne rendez-vous demain 9h02, heure de Kinshasa, pour continuer la fête à travers vos familles. Il y avait Alain Goy à la mise en onde, Walter au micro.